Bonjour, merci d'être là. Donc, c'est la journée d'études du groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement. Donc, j'ai l'impression d'être un perroquet parce qu'à chaque fois, je répète les mêmes choses quand je présente ce groupe, mais visiblement, il y a des gens nouveaux, donc c'est bien. Donc, le groupe Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement a été créé à l'issue d'un colloque en 2014. À l'issue aussi d'un programme d'enseignement qui a été fondé à Sciences Po Bordeaux, qui est un programme tripartite avec la Jamaïque, la Martinique et Sciences Po Bordeaux, et où les étudiants se déplacent durant tout leur cycle M2, enfin LMD, et font leurs études ensemble. Et ce programme a eu un certain écho, etc. Et puis, je vais la faire brève, hein. La FMSH, qui avait la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, qui avait le crédit qui finançait ce programme, a trouvé intéressant ce programme et sa longévité, surtout parce qu'un cycle LMD comme ça qui arrive à continuer, et nous a proposé de financer la partie recherche à laquelle était adossé ce programme. À l'époque, le groupe de recherche qui était basé au LAM, les Afriques dans le monde, à Sciences Po, s'appelait le Gramsci. Que tu as connu, Didier, non? Le Gramsci, groupe de recherche sur la Gramsci, les Amériques et les sociétés contemporaines. Voilà, enfin, il y avait un jeu de mots, vous comprenez. Hein, c'était surtout Gramsci qui nous intéressait. On a fait correspondre l'anagramme, donc, au nom. Et puis, ce groupe est devenu Monde Caraïbes et Transatlantique en mouvement. Et notre but depuis 2014, c'est de faire donc des journées d'études. On en fait trois à peu près, deux à trois, quatre par an, pour essayer de construire un paradigme, parce qu'on estime que cette région de la Caraïbe condense des logiques qui sont celles de on pourrait dire un bassin, le bassin de la modernité occidentale. Et donc, à partir de plusieurs axes, plusieurs perspectives, on voudrait parvenir à construire ce paradigme de la Caraïbe monde, parce que s'y déroulent des logiques, parce que s'y déroulent des choses qui vont donner leur substance à la fois visible et invisible à la modernité occidentale, et notamment tout ce qui relève de la construction du social par la race, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Et bon, je ne vais pas être plus longue. Disons en gros, on reprend aussi la pensée d'Achille Bembé par rapport aux démocraties esclavagistes, hein, ce grand paradoxe et cette grande contradiction, et donc considérer cette Caraïbe comme le lieu de la caisse de résonance de la modernité occidentale. Alors, on a avec nous donc Linda Boucry qui nous a rejoint, qui est de Paris, Panthéon, Sorbonne. Nous avons Mathieu Renaud, normalement, qui est avec nous, qui est philosophe, qui est à Paris 8. Nous avons Didier Nativelle, qui était anciennement au LAM et qui est maintenant à Paris Diderot, professeur d'histoire. Linda est géographe. Et puis, toi, Didier, tu es un petit peu notre miroir par rapport à un paradigme de l'océan Indien, puisque tu travailles plutôt sur l'océan Indien, et voir comment la traite européenne a eu ses échos et comment ces échos peuvent alimenter cette construction paradigmatique depuis la Caraïbe. Et puis moi-même, je suis anthropologue, géographe, et donc je travaille sur la Caraïbe depuis plusieurs années. Voilà, je n'en dirai pas plus, sinon que cette journée est importante pour nous. Linda va le dire parce qu'elle fait suite à des questions qu'on a posées dans la journée du 20 mars. J'en dis pas plus et je te donne la parole.
Merci Christine. Bonjour à tous. Merci d'être présent à cette journée d'études. Donc très rapidement, quelques mots pour introduire cette seconde journée de notre cycle qui fait suite, comme tu l'as dit Christine, à celle du 20 mars, consacré au rapport entre processus de racialisation et politique de la nature, de l'anthropocène au plantationocène. Nous avions interrogé la plantation comme laboratoire pour penser la transition vers l'anthropocène, puisque La plantation est un espace qui a été marqué par des circulations intenses de plantes, d'animaux, d'êtres humains transformés en ressources. Et Donna Haraway proposera la notion de plantationocène que nous avions discutée. Donc nous étions là aussi dans un dialogue interdisciplinaire avec parmi les approches à représenter la géographie, la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, les arts visuels avec l'artiste Jean-François Beauclé. Et petite parenthèse, les vidéos sont mises en ligne sur Canal U de notre journée. Et on peut mettre des likes. Alors nous poursuivons aujourd'hui l'exploration des relations entre processus de racialisation et politique de la nature à partir d'une autre perspective, qui est celle d'interroger les variations du paradigme de la race au cours des dernières décennies, marquées, hein, comme nous l'avons dit, par l'apogée du paradigme constructiviste, mais aussi par les avancées des savoirs de la génétique qui posent la question d'une nouvelle naturalisation des différences. Alors, nous avions évoqué au cours de la première journée les modalités du déploiement d'ordres sociaux, politiques, environnementaux des régimes plantationnaires, notamment caractérisés par la puissante matrice qui associe étroitement la conquête de la terre, la domination de la nature, la subordination de corps marginalisés. Les questionnements de ce jour sur les variations paradigmatiques de la race font écho aussi à des travaux, un certain nombre de travaux issus des sciences sociales, je pense notamment aussi à l'anthropologie médicale, qui s'appuie sur les nouveaux savoirs de la génétique ou encore de l'épigénétique pour mettre en évidence les processus de la fabrique racialisée des corps et de quelle façon les expériences vécues, raciste en l'occurrence, s'incarne dans le corps et la façon dont le corps réagit à un contexte social donné. Et cette réaction le marque du point de vue physiologique. Je pense notamment aux travaux qui nous ont nourris pour penser cette journée, aux travaux de l'anthropologue britannique Peter Wade, qui parle de « racialized embodiment », lorsqu'il cite notamment les travaux de l'anthropologue états-unien William Dresser sur les situations. Et alors, William Dresser, qui est un anthropologue plutôt issu de l'anthropologie médicale et qui a travaillé notamment sur les cas de pression artérielle élevée chez les sujets noirs aux États-Unis dans la Caraïbe. Et même dans ses travaux, il montre que même lorsque les variables du tabac, du régime alimentaire ou du statut socio-économique sont contrôlées, on a cette situation d'hypertension. Et il nous dit, en Afrique, il n'y a pas d'hypertension plus élevée chez les sujets africains plus que chez les sujets blancs états-uniens. Et donc, il n'est pas possible d'argumenter d'une détermination génétique. Mais au contraire, Dressler va nous dire que finalement, c'est précisément parce qu'ils sont dans une situation économique une situation économique très défavorable, qu'ils souffrent aussi de frustration, de colère face à cette situation d'inégalité structurelle, qu'on peut aussi expliquer le fait que l'hypertension ne peut être perçue pas simplement comme une réaction temporaire, mais comme une maladie chronique. Bon, ça fait écho à un certain nombre de travaux autour notamment de cette anthropologie médicale. Et dans la lignée de ces travaux, Peter Wade nous dit ainsi qu'il faut aussi penser la racialisation des corps comme un, je cite, « ongoing biocultural processes ». Cette idée donc nous invite aussi à repenser la dichotomie entre race comme réalité biologique versus race comme construit social, c'est-à-dire le biologique qui serait du côté du fixe, radicalement opposé à la construction qui serait changeante. C'est l'idée de l'opposition permanence versus changement. Et donc il invite ainsi à questionner un certain nombre d'impensés lorsqu'il s'agit de la construction raciale, à savoir qu'entendons-nous par le biologique, par la nature, par l'essence, quand on parle des processus d'essentialisation, de naturalisation, toute une terminologie qui ne permet pas d'analyser de quelle façon le biologique est également construit, de quelle façon le corps est aussi un devenir et de quelle façon, en somme, le biologique et le socioculturel doivent être pensés dans leur interrelation et leur co-construction comme deux unités de discours qui s'interpénètrent. Alors, bien évidemment, il s'agira aussi d'évoquer les risques liés aux usages de ces nouveaux savoirs pris dans des dynamiques capitalistiques, mais aussi mobilisés dans des recherches qui peuvent réifier des catégories existantes. Et de ce point de vue, je terminerai par un appel de scientifiques de la revue Science datée de 2016, Taking Race Out of Human Genetics, et qui appelle précisément. Alors, est-ce que j'ai pris le texte? pouvoir le lire.
Tu peux le lire là.
Oui, oui, mais parce qu'il est en tout petit minuscule. Mais on voit ici qu'effectivement, hein, ils le disent assez clairement, ils appellent à la vigilance à l'égard de la mobilisation de la catégorie race, notamment dans tous les travaux sur les recherches sur les origines, l'ancestralité. Ils proposent hein, de retirer progressivement ces catégories, donc, notamment de race. Hein, ils mettent « but language matters and the scientific language of race has a considerable... » influence on how the public understands human diversity. Et ils le disent, hein, phasing out racial terminology in biological sciences would send an important message to scientists and public alike. Historical and racial categories that are treated as natural and infused with notion of superiority and inferiority have no place in biology. We acknowledge that using race as a political or social category to study racism and its biological effects, although fraught with challenges, remains necessary. Bon, alors, on aura l'occasion de reprendre ces différents enjeux, notamment sur les risques de ce retour du biologique. La question du retour sera elle-même questionnée par Claude Olivier Doron. Est-ce que Christine, tu souhaites rajouter quelque chose sur ce volet ?
Vous me coupez si je suis trop longue, hein, voilà. Oui, moi, ce qui m'intéressait le plus dans cette journée, puisque, bon, spécialiste de la Caraïbe, je travaille constamment depuis des années, depuis plus de 30 ans, sur la race, sur la racialisation des rapports sociaux, sur les populations racisées. Et j'ai été extrêmement interpellée par ce nouveau débat. Que j'ai découvert, je dois le dire, par l'article dans La Vie des idées. Bon, bien sûr, j'avais découvert avant par l'usage des tests génétiques auprès de la population afro-américaine. Et pour moi, ce débat m'a toujours extrêmement intéressée parce que je voyais au départ le remplacement de l'ADN venant remplacer ce qu'était l'état civil. Et l'état civil perdu, les registres paroissiaux perdus pour retrouver. Et je ne voyais pas de différence entre le matériau ADN et le matériau constitué par des registres paroissiaux d'individualité. Donc ça a été une de mes premières interrogations. Je voulais travailler dessus, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu. Et donc je voulais qu'on soit vraiment au cœur de cette question. Moi, je suis une constructiviste. Au cœur de cette question où les constructivistes, nous n'avons plus notre place. Nous n'avons plus notre place parce qu'on ne peut pas répondre à cette résurgence ou à ce retour du biologique ou à, moi je dirais plutôt à cette émergence du biologique en tant que nouvelle matérialisation. Moi, je parle d'une nouvelle matérialisation plus que d'un retour. Que en tant que constructiviste, je n'arrive pas à m'immerger dans la nécessité d'une autre approche, parce que déjà, et Olivier pourra nous le dire en tant qu'historien, le phénotype de couleur a toujours été présent, donc qu'on ait trouvé une mathématique du phénotype de couleur, qu'on ait trouvé une grammaire du phénotype de couleur, pour moi, ne change pas grand-chose à ce qu'avait fait Moreau de Saint-Méry quand il avait classifié en 110 variations de couleur. C'était travailler sur le physique, l'apparence, le phénotype. Et à partir de là, c'est l'usage que l'on fait de cette matérialisation qui me semble être celle qu'il faut interroger. Et c'est celle qui, d'après moi, mobilise forcément le paradigme constructiviste. Et donc, je n'arrive pas à m'immerger dans autre chose. Alors, peut-être que c'est l'âge qui fait qu'on s'enquiste dans nos théories et puis qu'on trouve toujours que celles qu'on a découvertes quand on était jeune, c'était les meilleures, je n'en sais rien. Mais je n'arrive pas donc à être convaincue qu'il ne faut plus répondre au retour, ce que tu as dit, retour du biologique, par l'arrêt d'une approche, enfin la remise en cause d'une approche constructiviste. Je ne suis pas convaincue, bien évidemment, je vais vous dire pourquoi, par Bruno Latour, et pourtant j'utilise des choses qui ressemblent. Je ne suis pas convaincue parce qu'il me manque à l'intérieur de la théorie latourienne, de ce mélange de la matérialité, des actants, etc., il me manque des relations de pouvoir, je n'arrive jamais à les trouver. Donc je ne peux pas répondre avec une théorie latourienne, donc j'aimerais aussi qu'on parle de ça. J'ai trouvé auprès de Judy Butler, qui pourrait, après tout, dire, on pourrait dire qu'elle elle a une approche latourienne, puisque si on pose une matérialité à l'extérieur du langage, ce que voudrait nous faire penser l'ADN. L'ADN serait une matérialité à l'extérieur du langage et du symbolisme. Lorsque cette matérialité, je la cite, est considérée comme ontologiquement distincte du langage, c'est miner la capacité du langage à indiquer ou à correspondre à ce domaine d'altérité radicale. Ainsi, la distinction absolue entre langage et matérialité, qui devrait garantir la fonction référentielle du langage, mine radicalement cette fonction. Il ne s'agit pas de dire par là, soit d'un côté que le corps n'est fait que de langage, soit de l'autre qu'il n'y a aucun rapport avec le langage. Langage et matérialité ne sont pas opposés, car le langage est matériel en même temps qu'il se réfère à ce qui est matériel, et ce qui est matériel n'échappe jamais entièrement au processus par lequel il est investi de signification. On pourrait dire que c'est un peu du Latour, mais moi je trouve un peu plus convaincant quand même. Le langage et la matérialité, je poursuis avec Judy Butler, sont enchâssés l'un dans l'autre et forment comme un chiasme dans leur interdépendance, sans toutefois s'assimiler ou se réduire tout à fait l'un à l'autre, sans jamais non plus entièrement s'excéder l'un l'autre. Toujours déjà impliqués l'un dans l'autre, toujours s'excédant déjà l'un l'autre, le langage et la matérialité ne sont jamais tout à fait identiques ni tout à fait différents. Donc j'aimerais bien qu'on parle à propos de ça. Et ça me fait penser aussi à Castoriadis. Je suis une fanatique de Castoriadis, je m'en excuse, qui pose comme principe que l'imaginaire radical est à la base de toute approche de nos sociétés, et y compris de nos théories. Et que la théorie qui différencie le réel et l'imaginaire est elle-même le produit d'un imaginaire radical. Alors la théorie qui postule que le matériel et l'immatériel, l'actant, le monde des actants est fait de non-pensants, de pensants, ou de, me paraît être aussi un produit de l'imaginaire. Donc je les mets sur un niveau d'équivalence, et Latour serait très content que je les mette dans un principe de symétrie pour dire qu'à la base, en fait, c'est l'imaginaire radical qui est là. Donc pour moi, c'est le produit, c'est la pensée, j'ose le dire, qui est quelque part fondamentale et première, y compris dans tous ces codes et cette mathématique du corps qu'on a créée par la biologie, qui me paraît être un produit, éminemment un produit de la pensée. Voilà, donc je voulais terminer, j'ai le temps ou pas, par un petit extrait de... Oui, pour dire que on a dans la... Bon, bien sûr, oui, ça, je ne voudrais pas que ce soit du folklore, hein, mais on a une chanson de Bob Marley qui nous dit, dit cette problématique. Il s'est inspiré du discours de Haïlé Sélassié devant l'ONU en 1963, discours qui disait que tant que... C'est notre problématique de l'ADN aujourd'hui, hein, tant que la philosophie qui fait la distinction entre une race supérieure et une autre race inférieure ne sera pas finalement et pour toujours discréditée et abandonnée, tant qu'il y aura encore dans certaines nations des citoyens de première et de seconde classe, tant que la couleur de la peau d'un homme n'aura pas plus de signification que la couleur de ses yeux. Et ça, j'aimerais bien que les biologistes nous disent comment les gènes aussi sont impliqués dans la couleur des yeux. Et après tout, pourquoi on n'a pas sélectionné une population avec des yeux bleus pour dire qu'elle serait esclavisée ou racisée en fonction de sa couleur des yeux, ce qui est de la génétique aussi, au final. Donc, tant que les droits fondamentaux de l'homme ne seront pas également garantis à tous en distinction de race, jusqu'à ce jour, le rêve d'une paix durable, d'une citoyenneté mondiale et d'une règle de moralité internationale ne restera qu'une illusion fugitive que l'on poursuit sans jamais l'atteindre. Et c'est la chanson de Bob Marley, War, qui reprend donc le discours d'Haïlé Sélassié. Je ne vais pas vous la chanter. Voilà. On devait la passer, mais ouais, peut-être à la pause.
Didier, un mot ? Tu veux rajouter quelque chose ?
Je peux. pouvez prendre le risque de me donner la parole.
Alors, je vais être rapide, mais quand même rappeler que moi, je ne suis pas un historien, en fait, hein, des Caraïbes, et je crois que c'est intéressant de travailler la dialectique, parce que, en fait, dans l'océan Indien, donc sur lequel je travaille en particulier, et l'Afrique de l'Est, on trouve à la fois des sociétés de plantation, donc dans les Mascareignes en particulier, donc c'est assez comparable, en fait, hein, à ce qui a été dit, mais également d'autres types de sociétés, où esclavage domestique, traite, etc., ont consolidé, en fait, des ordres sociaux inégalitaires, qui se sont souvent recomposés à l'époque coloniale, ce qui m'intéresse beaucoup. Hein. Donc on parlait tout à l'heure d'enchâssement, de chiasme, etc. C'est ça qui, je pense, constitue un petit peu le paradigme de cette région-là. Ce sont également, en fait, au XIXe siècle, des postes d'observation privilégiés pour des contributeurs de débats raciologiques européens. Et il y a des personnages tout à fait intéressants, peu connus encore, hein, comme Eugène de Froberville, qui est issu, en fait, du monde de la plantation à Maurice, et qui étudie des esclaves venus du Mozambique ou des affranchis dans les années 1830-1840. C'est un correspondant, en fait, de la Société de Géographie et surtout de la Société Ethnologique de Paris dans les années 1840. Et cette Société Ethnologique de Paris, en fait, joue un rôle très important dans l'anthropologie physique qui est en train de se constituer en Europe. Et on retrouve, en fait, les bases de la raciologie. On est à rue Broca, hein, donc de la Société d'Anthropologie de Paris, de Paul Broca. Et il attire l'attention de quelqu'un, par exemple, comme Désiré Charnay, qui est un des premiers à faire des photos anthropométriques à La Réunion, hein, d'ex-esclaves. Et tout ça est débattu à Paris. Et évidemment, ça va imprégner ensuite, hein, des conceptions et des pratiques administratives 40 à 50 ans plus tard, dans cette région-là et ailleurs. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça va aussi infuser sur des conceptions et des pratiques d'élites colonisées, racisées elles-mêmes, mais qui reprennent, en fait, des stéréotypes du blanc et du noir, hein, qui étaient, en fait, vus autrement dans les sociétés malgaches, par exemple, pour s'éloigner de leurs anciens esclaves. Donc la racisation permet à des élites précoloniales de se recomposer, hein, de se renforcer. Et c'est par exemple ce qu'on lit, hein, dans un article qui a été rédigé par Sonia Deur, qui est ici présente, et Hervé Rakoutramir en dessous, et qui s'était interrogé sur le contexte de recherche génétique effectuée à Madagascar sur 3000 personnes. Et en fait, ça rejoue des débats très anciens, hein, qui ont démarré il y a 150 ans, chez des Européens ou des gens de cette région, mais également dans des élites malgaches. C'est ça qui est tout à fait intéressant. Alors, j'insiste là-dessus pour, disons, plaider un peu pour qu'aujourd'hui, on discute aussi un petit peu des échos de ces débats constructivistes, post-constructivistes, etc., qui intéressent, bien sûr, les cercles académiques occidentaux, mais pas uniquement. Et il me semble que ça serait pas mal, effectivement, d'ouvrir aussi à d'autres sociétés que les sociétés contemporaines, et en particulier à des sociétés racisées, mais qui ont parfois, donc, comme je l'ai dit, repris à leur compte, en fait, hein, ces processus. Voilà, je vais m'arrêter.
Merci beaucoup. On va commencer par notre premier intervenant, Luc Berlivet. Vous êtes politiste, chercheur au CNRS et rattaché au laboratoire, au centre de recherche médecine, sciences, santé et société.